In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 170e fois dans Entre les pages, la seule émission de l'univers qui parle du monde des livres en Anjou. Je l'avoue, cette émission si particulière induit un biais cognitif totalement assumé. Elle laisse sous-entendre qu'elle n'aurait qu'une vision autarcique de l'Anjou, hors des frontières du Maine-et-Loire, point de salut. Ce qui me vaut depuis maintenant cette saison des regards circonspects, dubitatifs, voire ironiques, quand ils ne sont pas condescendants. Alors aujourd'hui, illustrer encore une fois que l'Anjou recèle des potentialités fantastiques qui nous ouvrent les portes du monde. Certes, nous pouvons nous targuer d'accueillir sur ce territoire des pointures en termes de littérature, toutes formes confondues. Impossible de les citer toutes. Mais l'Anjou sait aussi ouvrir ses portes et les actrices et acteurs des Rencontres littéraires 2026 sont là pour le prouver. Et au premier chef, le département du Maine-et-Loire. En accueillant l'énorme exposition Benjamin Lincombe à la Collégiale Saint-Martin tout l'automne dernier, après la non moins énorme installation Profondeur du collectif Lucilium l'année passée, le département a montré que l'Anjou était un territoire ouvert, curieux et qui dispose de compétences magnifiques pour séduire et attirer de grandes personnalités. Les Rencontres littéraires de la Collégiale vont l'illustrer. Autour de la table et au téléphone, nous allons vous le prouver. Bienvenue à toutes et à tous. Et je vais commencer avec vous, Yann Semler-Collery, ou plutôt monsieur le vice-président du conseil départemental délégué à la culture et au patrimoine. Je prends une respiration. Bonjour.
Bonjour à tous. Merci de votre invitation.
Nous nous sommes croisés à plusieurs reprises. Vous êtes passionné de littérature, vous vous exprimez même en alexandrin dans vos discours. Vous êtes photographe et passionné par la photographie. Le département du Maine-et-Loire a décrété l'année 2026 année de la culture. Pourquoi cette détermination politique ?
Eh bien, quel beau lancement. Merci de cette belle question. C'est vrai que pour le département de Maine-et-Loire, et même pour les collectivités, on dit parfois que la culture est une compétence facultative. Et moi, j'ai tendance à corriger en disant que c'est une compétence obligatoirement partagée, ce qui est engageant. Et pour le département de Maine-et-Loire, je dirais même que sous l'impulsion de Florence Dabin, sa présidente, la culture est une conviction et certainement pas une variable d'ajustement dans ces temps de disette budgétaire. Et la culture est même intimement liée à nos compétences qui sont majoritairement sociales à tous les âges de la vie. Et je dis parfois que la culture, c'est comme l'huile dans les rouages de nos compétences. Avec une ambition simple, politique, celle-là, une sorte de carré magique. On vise et l'objectif, c'est d'avoir une culture qui soit partagée avec les territoires, puisque le département aide à faire fondamentalement. Une culture accessible à tous, que ce soit géographiquement, financièrement, en brisant toutes les barrières, innovante également, et puis enfin patrimoniale. Alors l'année de la culture, c'est évidemment un message fort pour le monde de la culture, qui en a bien besoin. C'est un message pour tout le monde, partout, tout le temps, à tous les âges. Je dis parfois que la culture, c'est comme l'air que l'on respire, c'est léger, c'est invisible, on ne s'en rend pas compte, mais c'est quand elle vient à manquer qu'on voit à quel point elle est essentielle.
L'exposition Benjamin Lincombe vient de se terminer. Vous avez une idée des chiffres de fréquentation ?
Oui, c'est une très belle fréquentation. On a dépassé les 33 000 visiteurs. Donc on est vraiment sur une lancée. Et ça a été une vraie découverte pour les Angevines et les Angevins. C'est quelqu'un qui est très accessible et qui est un, un bourreau de travail et de créativité, en même temps qu'un écrivain, c'est un auteur également. Et il y aura des suites à sa venue en Anjou, puisque,
c'est ça. C'est de
en termes de livres.
Voilà, c'est de ça dont je veux vous faire parler. C'est les suites, parce qu'il y a des suites à cette exposition, et qui ne sont pas, qui sont tout à fait en lien d'ailleurs avec l'année 2026, année de la culture.
Absolument. Oui. Donc, je parlais de la culture à tous les âges de la vie. Bah, ça commence par la naissance, et depuis quelques années, on offre dans un dispositif qui s'appelle Jeunes Pousses, aidé nationalement par ce qui s'appelle le Première Page. On offre un livre de naissance à toutes les familles de l'Anjou. Il y a à peu près 8000 naissances par an. Et on a la particularité d'offrir ce livre par l'intermédiaire des bibliothèques et des maisons des solidarités, ce qui fait que c'est un cheminement intéressant pour mener à la culture et créer ce fameux lien social que permet la culture. Et on est en préparation avec Benjamin Lacombe du prochain livre de naissance pour 2027, inspiré de ces magnifiques dessins.
Donc un circuit vertueux, hein, parce que pas un calcul stratégique, mais l'envie aussi que les familles aillent aussi à la rencontre des outils du territoire, que ce soit les maisons de la solidarité ou les médiathèques, bibliothèques. Et on sait que le département anime le réseau des bibliothèques sur le territoire, un vaste réseau. Je ne sais plus combien il y a de bibliothèques, mais c'est...
240.
Voilà, c'est phénoménal. J'en ai exploré beaucoup, des toutes petites. Je suis allé vers les plus petites du réseau. Alors, un livre... En 2027, de Benjamin Lacombe à destination de tous les enfants nés en 2027, on va dire, 2027-2028. Hein. Oui. Donc, on peut dire que c'est un beau livre, parce que s'il est pas à la taille, parce que ce ne serait pas possible, mais au niveau d'excellence de l'exposition de Benjamin Lacombe à la collégiale, qui était vraiment éblouissante. Enfin, le mot est faible.
Ce sera un objet d'art, et c'est vrai qu'on dit parfois que Benjamin Lacombe, c'est la... C'est le cauchemar des imprimeurs, parce que c'est des objets très qualitatifs. Il y a des rabats, il y a de la dentelle, il y a de la décoration. Donc, c'est le fond et la forme sont réunis.
Il y a un certain nombre d'auteurs comme ça qui sont un peu frappadingues et qui doivent effectivement donner des sueurs froides, parce qu'après, il faut travailler sur les coûts et ça ne doit jamais être très, très simple au final. Avec ces rencontres littéraires, déjà... Elle s'installe dans un lieu emblématique, la collégiale Saint-Martin. Et cette collégiale, elle fête un anniversaire.
Absolument, c'est les 20 ans de la réouverture de la collégiale.
Ah oui, je croyais que c'était
2020.
Les 20 ans de la collégiale. Non, la réouverture.
Non, c'est 2000 ans, il y a juste 2 zéros en moins. Mais c'est 2026. Et c'est vrai que c'est un anniversaire, c'est le moment de célébrer, c'est un moment joyeux, c'est un moment pour valoriser un lieu de biodiversité culturelle majeure. En plein cœur d'Angers, et puis c'est de privilégier tous les publics, puisque celle-là encore, c'est l'accessibilité, et avec un public familial en particulier.
Et avec une offre osée pour les 20 ans de la collégiale, une offre tarifaire osée. Et là, je vous vois dubitatif, parce que vous ne savez pas de quoi je veux parler.
Non.
Non ? Pour les jeunes qui ont 20 ans.
Ah oui, c'est un petit clin d'œil. Effectivement, tous ceux qui ont 20 ans, alors on ne connaît pas le nombre, mais on le verra à l'usage, c'est entrée, plat et dessert à volonté, puisque c'est gratuit pour l'ensemble de l'année sur tous les événements.
Donc tous les jeunes de 20 ans, il faut qu'ils se le mettent dans un coin de leur tête, ils peuvent entrer à la collégiale tranquillement, les mains dans les poches.
Ce qui fait que pour eux, comme l'émission s'appelle « Entre les pages », ils pourront mettre dans l'agenda 365 marque-pages pour venir autant qu'ils veulent.
Et voilà une bonne nouvelle, et ça me donne l'occasion de faire la transition avec... la responsable de la collégiale, c'est ça ? Je ne me trompe pas. Est-ce que le titre est bon ?
C'est le bon titre, oui, tout à fait.
Bonjour Isabelle Legge.
Bonjour, bonjour.
Et donc, vous êtes responsable de la collégiale depuis combien de temps, en fait ?
Oserais-je le dire ?
Oui, dites-le.
Moi aussi, j'ai 20 ans.
Ah, il y a une bonne vieille chanson qui dit « on n'a pas tous les jours 20 ans ».
Ma mère me disait que j'étais la maman de la collégiale. Je ne sais pas comment j'ai dû le prendre.
Oui, c'est un joli titre.
Enfin, en tout cas, voilà, je suis là depuis l'ouverture du lieu, effectivement.
Ouais. Vous êtes... responsable de la collégiale, et vous avez imaginé, il y a 8 ans, les rencontres littéraires. Alors, ça partait de quelle intention, ces rencontres littéraires ?
Alors, ces rencontres littéraires, effectivement, elles ont vu le jour en 2019. Il y avait déjà quelques années qu'avec le directeur de l'époque, on avait des envies d'ouvrir les entretiens à un public plus jeune. Et puis, sur l'entrefaite, Antoine est venu nous présenter
Alors,
son offre
Antoine,
de service.
Antoine, c'est très familier oui. dans cette émission, mais on va peut-être dire Antoine Boussin.
Parce que
des Antoines, il y en a beaucoup.
Non, il n'y en a pas tant que ça.
Mais des Antoine Boussin, il n'y en a qu'un.
Voilà, donc c'est comme ça que les choses se sont, j'ai envie de dire, bien conjuguées. Mm-hmm. On avait cette envie-là, nous, en interne. Antoine donc est venu nous proposer ses entretiens littéraires sur l'entrefaite. C'était l'occasion d'enclencher les choses. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on a démarré l'aventure, modestement au départ, puisque la première année, on n'a accueilli que 4 autrices. C'était une saison 100% féminine.
Ah, ça fait du bien.
Et puis, parce qu'on avait besoin de savoir comment le public allait réagir à ça, si la mayonnaise allait prendre et si on allait avoir le plébiscite du public qu'on espérait. Et de fait, ça a été tout de suite effectivement plein pot. Donc très rapidement, on a souhaité avec Antoine et donc le département faire prendre de l'ampleur à ces entretiens, accueillir davantage d'autrices et d'auteurs évidemment. Et du coup, désormais, effectivement, depuis maintenant quelques années, les entretiens se tiennent sur 2 week-ends consécutifs.
Mmh. 2 week-ends, généralement, sur lesquels il faut se battre pour avoir des places, parce que c'est infernal. Moi, c'est infernal. J'ai découvert, lors de la conférence de presse, que, au titre de ma fonction, je pouvais entrer comme ça, symboliquement, je pouvais entrer comme journaliste, ce que je n'ai jamais osé faire, parce que, quand même, j'étais trop timide. Et donc, je voyais que tout était bouclé, donc je me disais, cette année encore, je vais passer à côté. Vous avez observé une montée en puissance, mais après cette édition, vous avez décidé de donner une nouvelle dimension à ces rencontres littéraires qui étaient pourtant bien installées dans le paysage. Alors, c'était la peur de ronronner ?
Alors, peut-être un petit peu la peur de ronronner, je ne sais pas, mais aussi l'envie surtout de pouvoir toucher de nouveaux publics, de pouvoir aussi proposer de nouveaux genres littéraires. La littérature jeunesse a ses lettres de noblesse également.
Et
surtout, pas avoir peur de le rappeler.
Et à Angers,
effectivement. Et puis aussi, c'était l'occasion également d'ouvrir sur une littérature dite plus populaire, avec donc une journée aussi dédiée à la série noire. Donc, les 20 ans de réouverture du site nous ont donné l'occasion de remettre un petit peu les choses à plat et puis peut-être d'initier effectivement un vent de nouveauté, de fraîcheur, de jeunesse en tout cas, à l'occasion des célébrations de ce 20e anniversaire. Voilà.
Donc là, vous avez coupé mon intervention suivante puisque vous avez tout dit, mais je vais la faire quand même parce qu'elle me plaît. J'aime tellement cette intervention que je vais la faire quand même, comme ça je vais me faire plaisir. Jusqu'à présent, les rencontres littéraires étaient circonscrites à ce qu'on appelle la littérature blanche, à l'image de la collection blanche des éditions Gallimard. Pour cette 8e édition, c'est un changement radical, une ouverture à 360 degrés. Donc, vous l'avez dit, jeune public, littérature noire. Qu'est-ce qui a fait que... Alors, jeune public, on comprend. Hein, c'est tout à fait compréhensible parce qu'il y a nécessité de faire un effort sur ce terrain-là et de ne jamais lâcher le morceau. Et je pense que ça, c'est concomitant à la décision, à la politique du département qui fait éditer ce livre Premier âge pour les enfants. Donc, jeune public. Mais après, le genre, là, vous êtes allé loin quand même. Le noir, c'est quoi ce truc-là ?
Noir, c'est noir.
Oui, dit-elle.
Écoutez, c'est le hasard de rencontres. Vous savez, souvent, les belles aventures sont d'abord des aventures de rencontres de personnes. Et il s'avère que le directeur de la culture et du patrimoine, Stéphane André, avait une appétence particulière pour ce genre littéraire. Et on s'est dit, après tout, pourquoi pas aussi proposer ça. C'était aussi un petit peu l'idée de se dire peut-être que 3 jours consécutifs, 100% littérature jeunesse, pour une première. Là, on va voir comment ça va se passer. Hein. Mmh. Il n'y a que ceux qui ne tentent rien qui ne font pas d'erreur. Donc, l'idée, c'était aussi de se dire que peut-être 3 jours complets pour le jeune public, c'était peut-être trop une première fois. Et donc, ce qui nous intéressait aussi, c'était de pouvoir tisser des liens et des passerelles entre le roman graphique, le roman jeunesse, et puis aussi certains scénaristes et certains dessinateurs également, qui se sont saisis de ce genre littéraire son public.
Et on verra dans le programme, il y a des scénaristes qui font dans le très, très, très,
oui, il y a de la
très
peinture,
noir.
Oui,
il y a des traits noirs. Alors, une chose est l'idée. Alors, on l'a vu au démarrage des entretiens, c'est la rencontre entre une envie, une volonté et une opportunité. Désolé Antoine Boussin, je vous appelle une opportunité, une rencontre avec Antoine Boussin, et puis ça se met en route. là, l'envie d'élargir le spectre, de voilà, vraiment une envie, et puis de se remettre en cause, et ce qui est toujours extrêmement fort comme, démarche, il fallait des partenaires. Alors, ces partenaires, comment on fait quand on a une intention comme ça, et puis on se dit, bah, ouais, mais avec qui on fait ?
Ben, on se dit dans quelle galère je me suis engagée. Exactement. D'abord. Ensuite, ben, on prend son téléphone. Ouais. Et puis, je m'étais quand même rapprochée quand même du Bibliopôle, donc celui qui anime le réseau des bibliothèques départementales, pour un petit peu sonder. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a cette envie-là. Est-ce que vous croyez que c'est le bon moment ? Par où on commence ? Mm-hmm. Sachant qu'on ne voulait pas que ce soit du 100%, du tout petit-petit, on voulait que ça puisse courir le spectre, si je puis dire, assez large, depuis la petite enfance jusqu'au roman adolescent, voire jeune adulte. Donc on a commencé à échanger un petit peu avec le Bibliopôle là-dessus, et puis ensuite, les libraires quand même du département sont déjà bien en contact avec le Bibliopôle, donc moi j'avais déjà quelques idées qui ont été confortées par le Bibliopôle dans mes choix, et donc je me suis rapprochée de deux librairies angevines qui sont Au repère des héros et La Luciole. Déjà dans un premier temps. Après, il y a Hubert Védrenne qui est venu sur le volet série noire, mais sur la littérature jeunesse, je me suis rapprochée d'elle.
Julien Védrenne.
Julien, j'ai dit quoi ?
Hubert.
Oh, pardon. Pardon, Julien.
Comment ça ? Oui, je vais l'avoir au téléphone tout à l'heure, donc.
Et donc, j'ai sollicité donc les deux librairies. Il a fallu d'abord leur vendre un petit peu le projet. Ouais. Est-ce que vous seriez partante avec moi pour nous engager dans une nouvelle aventure, sachant que moi, j'avais besoin quand même d'être accompagnée sur ce projet-là, qui était un nouveau projet pour le site. Et à mon plus grand plaisir, j'avoue que j'ai été très, très heureuse de voir, elles ont tout de suite répondu présente, et ça s'est mis en fait très vite en place, elles ont eu plein d'idées, on a échangé, puis on a bâti un programme qui sera donc présenté le week-end prochain.
Le week-end prochain, écoutez, on va les écouter. Avant de les écouter, on va faire une première pause musicale.
Oh, my God.
C'était Daponce, vous venez d'écouter Daponce, une artiste de l'Anjou, comme tous les musiciens d'ailleurs qui sont diffusés dans cette émission. Elle a chanté un titre tellement de circonstances au vu du changement climatique, ça s'appelle Adieu abeilles, et on a bien raison de, elle a bien raison, et nous devrions bien avoir raison de nous inquiéter de cette disparition des abeilles. Alors, je m'excuse auprès de tout le monde, voilà, il faut que je fasse beaucoup de choses en même temps, j'ai beaucoup de stress, donc voilà, peut-être que tout s'enchaîne pas de manière fluide, mais je suis sûr que vous me pardonnerez. Vous écoutez Entre les pages, et vous avez bien de la chance, ce n'est que sur Radio G. Et aujourd'hui, je reçois les organisateurs des rencontres littéraires de la collégiale. Alors, on entre dans le vif du sujet, après avoir écouté les responsables du département et de la collégiale. On entre dans le vif du sujet avec vous, Catherine Boivin. Bonjour.
Bonjour.
Responsable de la librairie La Luciole, la librairie emblématique jeune public d'Angers. Quand on vous a sollicité pour participer à ces rencontres littéraires, est-ce que comment vous avez réagi ?
Eh bien, plutôt positivement. En fait, j'ai un problème. Je crois que dès qu'on me parle de projets à faire avec des personnes motivées et pleines d'envie, je dis oui tout le temps.
Ouais, tout de suite. On m'en dit sur l'occasion.
Ouais. Ouais. Ça peut être un peu compliqué de trouver le temps, mais.
Ouais. La librairie La Luciole, c'est combien de salariés ?
On a, on est deux gérantes et on a un salarié à 80%.
Ah oui, alors donc quand on saisit l'occasion, on met tout le monde dans la panade quoi en fait. Hein ?
Un petit peu oui, ça veut dire qu'on va quitter le navire de temps en temps.
Ouais. Alors la librairie La Luciole, vous avez une devanture magnifique déjà. Enfin moi j'ai toujours...
On a de la chance.
Ouais, votre devanture est magnifique. Oui. Et chaque fois que je passe devant, je m'arrête parce que vous faites toujours des vitrines qui sont assez dingues.
Merci.
Je me souviens d'être rentré, vous aviez fait une... je pense que c'était une vitrine toute jaune, qu'avec une thématique jaune. Et je crois que j'étais entré dans la librairie pour vous dire que c'était bien.
Merci. Voilà. Mais c'était un moment où il pleuvait beaucoup, comme on a eu il n'y a pas très longtemps.
Ouais.
Et on avait envie de soleil, donc on l'a mis dans la vitrine.
Ouais. Alors, bon, on vous appelle, on vous dit, bah, écoutez, La Luciole, on a un projet, voilà, c'est pas grand-chose. Il faut participer aux entretiens littéraires. Vous vous dites, bah, bien sûr, on est OK. Il faut phosphorer un peu pour se dire, bah, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va proposer ? Comment vous avez travaillé sur votre proposition dans ces rencontres ?
Alors, on en a donc discuté avec Isabelle qui m'a proposé le projet. Dans ma tête, ça s'est assez vite fait. Je voulais que les tout-petits puissent prendre possession des lieux. Donc, on a déjà réfléchi à un auteur ou autrice ou illustrateur, illustratrice qui puisse parler aux tout-petits. Et après, on voulait montrer que la jeunesse n'était pas que les tout-petits. Donc, on a essayé de penser à une autre tranche d'âge et pourquoi pas aussi à quelqu'un qui soit angevin. On avait envie qu'il y ait une personne qui représente Angers dans la sélection. Et après, il fallait aller encore un peu plus grand, donc ado, presque adulte, pour que ça montre bien toute notre production et tout ce qu'il y a en littérature jeunesse.
Mmh. Mais là, ça reste vague, hein, je suis désolée, oui. Parce que vous dites oui, mais bon, moi je vois pas trop, j'y vois pas clair.
Alors,
c'est
coup,
quoi ? Voilà, objectivement, c'est quoi ?
Pour que les petits puissent prendre possession de lieux, il faut des animations, il faut pas juste être assis comme on peut vivre des rencontres littéraires de littérature blanche, du coup. Là, il faut qu'ils soient acteurs, donc comment, quelle personne peut faire ça ? Donc là, on a commencé à réfléchir à des noms. Et donc, c'est là, est-ce que je peux parler des
mais
noms ? C'est pour ça.
Vous êtes là pour ça.
Et donc, Aurore Petit, autrice nantaise, s'est imposée à moi. Pour les tout-petits, elle fait des livres très universels qui parlent aux enfants et beaucoup aux parents, parce qu'il faut aussi qu'ils aient envie d'inscrire leurs enfants. Donc, il faut que ça plaise aussi aux parents. Je l'ai appelée. Et on a décidé ensemble de ce qui serait le plus adapté au vu du lieu. Elle a imaginé tout de suite une fresque géante, participative, pour que les enfants puissent se découper, coller, jouer avec les matières, autour d'un livre qu'il réédite aux éditions Ladoux avec Matisse, qui a fait des comptines revisitées. Donc là, ce sera autour du petit lapin qui s'est caché dans le jardin, qui parle à plein d'enfants. Pour que ce soit assez ludique et rythmé, on ne peut pas rester une heure pour des enfants de 3 ans à la même activité. Donc, ce sera découpé en 3 temps. 20 minutes de jeux de société autour de la thématique du potager. 20 minutes de lecture des livres d'Aurore Petit que nous allons faire avec les libraires de la Luciole. Et 20 minutes d'atelier avec elle.
Sur la fresque.
Sur la fresque, exactement.
Ça, c'est l'acte 1. Acte 2, ensuite.
Acte 2, Christophe Aline et Fred Bigot pour le petit rayon magique. Donc Christophe est un angevin assez connu, un fabricoleur comme il se nomme, qui bricolait beaucoup dans les illustrations et dans les histoires. Et maintenant, il le fait aussi en musique avec plein d'instruments, tous plus loufoques les uns que les autres parfois. Ils composent, ils les écrivent tous les deux. Il y a aussi des auteurs qui les aident à écrire des textes toujours assez poétiques avec des comptines très modernes pour l'enfance. On quitte un peu les auteurs habituels. Et là, c'est autour des sens, avec Si c'est ça, Saussu, le vendredi à 16h.
Voilà. Ensuite ?
Et pour finir, donc pour faire le passage avec la littérature presque adulte, Anne-Laure Bondou écrit pour les deux publics, et donc nous aurons une lecture musicale du livre « Nous traverserons les orages » qu'elle a mis en scène avec Sean Sigo, donc qui met en musique cette œuvre qui parle... d'une famille dans le Morvan depuis la guerre 14-18 jusqu'à maintenant, avec toutes les épreuves qu'ils ont pu traverser, toutes les violences qu'ils ont vécues et comment réussir à casser ça, à sortir de ce cercle infernal dans lequel est rentrée cette famille. C'est très, très fort. Quand je l'ai fermé, j'étais vraiment... Oui, ça m'a laissé, voilà, ému, ouais. Exactement.
Donc, là, c'est une... Pardon, une lecture. Oui. Le roman est publié chez qui ?
Chez Gallimard Jeunesse, à la base. Il est aussi sorti en folio adulte. À chaque fois, les livres d'Anne-Laure Bondou sont édités après en Gallimard adulte folio.
Donc voilà, là, on a fait le tour de ce qui va être proposé, donc sur un spectre large, puisqu'on parle des tout-petits. On va jusqu'aux adolescents.
Oui. Hein.
Écoutez, moi je vais vous remercier. Catherine, il faut rajouter des choses, non ? Il n'y a rien à rajouter ?
Comme ça, non.
Non ? Eh bien, autre intervenante dans ces rencontres littéraires, c'est le repère des héros, les infatigables repères des héros. Et Tin Nguyen pouvait pas être là. Voilà. Alors moi je l'ai enregistré, et on va écouter Tin Nguyen. Bonjour Tien Nguyen.
Bonjour Luc.
Vous êtes une des infatigables responsables de l'incontournable repère des héros. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la proposition des rencontres littéraires ?
Quand on a été sollicité par le département et par la collégiale pour ouvrir en fait le champ des possibles concernant les rencontres littéraires, et que la proposition qui nous a été faite de travailler sur la jeunesse et la bande dessinée, bien sûr, on s'est senti à notre place. Moi, ce qui m'a réellement motivée, c'est le fait de pouvoir toucher d'autres publics. Et c'est vrai qu'à la collégiale, le cadre, l'écran est parfait pour proposer des choses qui peuvent dépasser, bien sûr, notre public à nous, qui sont vraiment des gens fidèles, des lecteurs réguliers, et réguliers de la dédicace et des rencontres. Mais l'idée ici, c'était aussi de se dire, on prend place dans un espace qui est idéal pour des choses, des formats plus grands.
Ça veut dire que ces entretiens littéraires, c'est une marche supplémentaire, un autre espace possible.
Oui, à chaque fois, on essaye d'amener aussi nos lecteurs sur d'autres lieux et d'autres rencontres possibles. Et nous, dans ma façon de voir les choses, c'est toujours de faire du lien avec des partenaires, du lien avec des lieux culturels, que ce soit les cinémas, les médiathèques ou même avec le Shabada il y a encore quelques années. Voilà, c'est toujours de se faire connaître à l'extérieur et à travers ça, d'amener nos lecteurs vers d'autres lieux culturels.
Vous allez proposer quoi pour ces entretiens littéraires ?
On intervient sur deux secteurs, donc la bande dessinée jeunesse, mais aussi sur la journée du dimanche qui est plus spécifiquement tournée autour du polar. Donc, pour la bande dessinée jeunesse, ce qu'on souhaitait par-dessus tout, c'était que les enfants qui participent aux rencontres soient acteurs. L'idée, c'était de pouvoir rentrer dans l'univers des auteurs et de les côtoyer et de dire que les enfants peuvent être acteurs et devenir artistes avec peu de choses, avec peu d'éléments et surtout avec des bons conseils. Tu peux devenir demain aussi, créer tes propres bandes dessinées, imaginer des personnages, imaginer des histoires.
Est-ce que il y a encore un coup de projecteur sur les auteurs du territoire ?
Ça aussi, c'est quelque chose que qui nous anime particulièrement, et d'autant plus pour cette première édition, en tout cas pour Graines de lecteurs. Moi, je voulais vraiment qu'on essaye de travailler avec les auteurs locaux qui sont sur place et qu'on a envie en fait de pousser pour les accompagner dans leur création, mais aussi pour les mettre en avant.
Oui, mais moi, il me faut des noms.
Alors, bien sûr, notre partenaire de toujours, c'est Tony Emerio, le grand Tony Emerio avec qui on a déjà commis quelques actes irréparables, mais qu'on aime à reproduire, on va dire, parce que j'ai demandé à Tony de faire des animations avec les enfants autour de ces personnages de Papy Génial. Et avec lui, je fais intervenir Gaëtan, qui a l'avantage, Gaëtan, d'être passerelle, c'est-à-dire qu'avec Tony, ils vont travailler avec les enfants sur la jeunesse autour de Dino Odyssée et du coup autour des dinosaures, des dessins de dinosaures. Mais aussi, je le fais intervenir le dimanche sur la journée polaire. Voilà, Gaëtan a les deux pieds dans les deux journées. Et le samedi après-midi, encore aussi un auteur qu'on affectionne particulièrement et qui pour nous est un peu infidèle de toutes nos animations, c'est Olivier Supio. On fait une lecture dessinée autour des œuvres de Jules Verne et son comparse Richard Petitsigne viendra faire les lectures comme il sait très bien le faire, avec engouement et avec emphase. Je pense qu'on aura un très joli spectacle. Mais l'idée, c'était de se dire, on s'approprie les textes. Et en fait, s'approprier les textes patrimoniaux, ça permet aussi aux jeunes auteurs de pouvoir s'approprier un univers et peut-être aussi un premier tremplin pour s'essayer, en tout cas, à une forme de littérature qui est l'adaptation littéraire.
Alors, pour terminer cette conversation, Tien Nguyen, est-ce que, comme le département du Maine-et-Loire, vous croyez à la culture ?
Là où nous sommes, bien sûr. On se bat chaque jour pour ça. Et malgré la conjoncture, malgré les difficultés, malgré la baisse du pouvoir d'achat, c'est notre leitmotiv et on est très content que le département puisse pallier à une autre collectivité qui a en effet s'est désengagée auprès des associations et des structures. Bien sûr, on a conscience que la ville d'Angers ou le département ne pourront pas à 100% pallier à ça. Et si nous, de notre côté, on continue notre chemin, on essaie de sortir un peu des murs et d'amener la littérature et la culture et la bande dessinée et la création auprès des plus jeunes, nous, c'est déjà un combat qui nous anime depuis tant d'années. Et bien sûr, le faire avec une équipe qui est la collégiale, pour nous, c'est juste... un privilège énorme.
Eh bien, Tien Nguyen, on va se revoir ce week-end, hein, puisque c'est le week-end prochain.
Avec un grand plaisir.
Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Merci.
C'était Zentone avec ce titre Riverside, extrait de leur dernier album. Et vous êtes toujours sur Radio G, vous écoutez toujours Entre les Pages. Après avoir entendu Catherine de la librairie La Luciole et Thien Nguyen de la librairie Le Repère des Héros, la parole va être maintenant à Julien Védrenne. Bonjour Julien.
Bonjour Luc.
Bonjour Julien. Alors, bloqué à un grand, quoi, tu me dites pas que vous avez les pieds dans l'eau.
Alors, on n'a pas les pieds dans l'eau, mais il y a quelques endroits en amont et en aval où on les a, et notamment à Varade où la gare est toujours inondée. Ce qui fait que ça réduit les trains, et figure-toi que ça réduit les trains jusqu'à au moins dimanche, et qu'il a fallu modifier en dernière minute les billets de train, notamment de Norbert Fleury, qui doit intervenir le matin à la collégiale, parce que son train a été tout bêtement supprimé. La SNCF peut faire ça.
Les inondations arriveraient à remettre en cause une programmation des rencontres littéraires. Non, j'y crois pas. Et puis je crois à tes pouvoirs immenses, Julien. Alors, on a vu dans la première partie de l'émission, on a écouté Catherine Boivin de la librairie La Luciole et Thien Nguyen pour Le Repère des Héros. Et ben, c'est à ton tour de passer sur le grill. Oh, je te tutoie. D'habitude, je vous vois les gens. Bon, je vais continuer à te tutoyer, c'est pas grave, on se connaît bien. Alors maintenant, c'est l'ouverture vers le polar. Alors dis donc, quand on t'a contacté, quand Isabelle Lenk t'a contacté et t'a dit « Bonjour, monsieur Védrenne, vous êtes le spécialiste du polar, est-ce que vous seriez prêt à vous lancer dans l'aventure des rencontres littéraires ?» T'as réagi comment ?
Bah, comme d'habitude, hein, j'ai envie de te dire, moi, dès qu'on me propose un coup un peu polar, cambriolage, braquage, je suis d'accord. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, la collégiale n'avait peut-être pas encore une idée très précise de ce qu'elle voulait faire. Elle voulait une table ronde, elle voulait peut-être d'autres éléments. Moi, je leur ai proposé ce qui se fait de plus classique, c'est-à-dire une rencontre autour de deux auteurs de la série noire, deux primo-romanciers autour d'une thématique polar historique, histoire de montrer que l'histoire ne se répète pas. L'histoire elle ne se répète pas, elle se décale sans arrêt. Est-ce qu'on en tire après les conséquences ? C'est une question intéressante qu'on posera à ces deux auteurs qui vont nous plonger d'Europe de l'Est en France, des années 1930-1940 jusqu'à 1977 à peu près, en compagnie de personnages qui ont tous des points communs dans leurs deux romans. Voilà, alors ça c'était pour une partie, et puis pour l'autre partie, il y avait deux choses qui me tenaient à cœur, c'était d'avoir une approche entre guillemets ludique du polar. Et ça, je pouvais l'avoir avec Norbert Fleury, qui est un technicien de la police du 36 Quai des Orfèvres. Enfin, ce qu'on appelait le 36 Quai des Orfèvres, qu'on appelle toujours maintenant le 36, le bastion, puisqu'il anime, lui, des scènes de crime, il tient des conférences, il nous explique comment les criminels ne sont pas, comme dans la série Les Experts Miami, mais sont des gens plutôt ordinaires qui commettent souvent des bourdes. Et qui donne parfois du fil à retordre, il faut bien le dire, en plus avec une évolution de la technologie. Et ça, oui.
Ça va prendre quelle forme, dis-moi, Julien ?
Alors, dans une première partie, le matin, pendant 1h30 à 2h, il y aura des éléments que Norbert Fleury aura disséminés sur sa scène de crime. Il fera intervenir des gens pris dans le public avec une blouse blanche et des petits chevalets. Et il racontera aussi des éléments et comment interpréter une scène de crime et ce qu'on donne après aux enquêteurs et comment c'est à eux de tirer des conclusions. Parce que en fait, on a tous l'impression qu'une scène de crime, la police scientifique, c'est génial. La police scientifique, elle peut te dire « un tel est passé là ». Mais elle peut pas te dire à 17h46 le 23 décembre.
Quoi, c'est pas possible ça ?
Non, ça c'est pas possible.
Bah moi j'ai vu dans les experts, ils m'ont dit que c'était possible.
Oui, alors tout est possible, mais il faut sacrée dose de circonstances et de concordance des preuves. Norbert expliquera ça mieux que moi. Et après, sur dans un deuxième temps, comme j'étais ajouté après les travaux de Catherine et de Thie, je voulais vraiment faire un lien entre ma table ronde strictement littérature et la programmation qui était faite par les deux libraires. Donc on s'est orienté vers une table ronde avec des scénaristes de BD policiers auxquels j'ajoute Norbert qui lui va nous donner des éléments sur la différence entre fiction et réalité. Voilà, et ça c'est intéressant, d'autant plus qu'aujourd'hui, tu le sais peut-être mieux que moi, la BD docu, les autofictions laissent les lecteurs dans l'embarras parce qu'ils ne savent pas ce qui est de la fiction, de ce qui n'est pas de la fiction. Et il est intéressant d'avoir ces trois témoignages sur trois sujets bien différents qui nous disent faisons le lien entre la fiction et la non-fiction, mais apprenons aussi à faire la différence.
Mmh. Alors, c'est qui ces auteurs-là? Tu me dis, je vais faire le lien avec ce que fait Thien Nguyen et Catherine Boivin, mais les scénaristes dont tu parles, c'est qui?
Alors, il y a Luc Brunschvig qui vient d'adapter un roman de Franck Tilliez, hein, que tu connais peut-être, 1991.
Mmh. Ouais. D'accord.
Et Gaetz, qu'on a connu ces dernières années pour sa très jolie série RIP, ouais. R-I-P, Rest in Peace.
Très jolie, tu plaisantes. C'est la seule série policière qui sent mauvais, hein, je suis désolé.
Alors, elle peut sentir mauvais, oui. Mais elle est très jolie.
Elle est magnifique.
Il y a plein de plantes dans la nature qui sont très jolies et qui puent, Luc. Donc, non, elle est intéressante parce que là, on va retrouver un élément qu'on va aborder avec Norbert Fleury, c'est la question du témoignage. C'est-à-dire que la bande dessinée, je fais vite fait le résumé pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est 6 points de vue différents d'une même histoire. Et donc, à chaque fois, la focale est déplacée. Et ça ressemble trait pour trait à ce qu'est un témoignage d'un fait divers dans la rue. C'est-à-dire que si tu interroges 6 personnes dans la rue sur un accident de voiture, elles vont te donner 6 témoignages différents qui iront « c'est un conducteur, non, c'est une conductrice, la voiture était bleue, non, elle était rouge ». Et tout le travail de la police, c'est justement après de faire concorder des éléments et de retrouver un tableau assez proche de la vérité de ce que sont les 6 témoignages. Donc là, on parlera un peu de ça. Et Gaetz, c'est quelqu'un qui est très mathématicien dans l'âme. Il avait commencé sa carrière par un léger goût dans le moteur, une adaptation d'un roman de Jean-Luc Luciani il y a 12 ans. Et là, avec un enfant assassin, un garçon assassin, et là, il revient sur une même trame, un léger goût sous le palais. Et ce coup-ci, on est dans un HLM et c'est une gamine qui tue les gens. Bien. Quand elle est désœuvrée.
Sur cette note d'un optimisme dont je reste béat, Julien, je vais être obligé de t'interrompre parce que l'émission se continue. Je te remercie d'avoir été présent par téléphone. Je te souhaite une bonne journée, puis on se verra ce week-end nécessairement. Bonne journée à toi, au revoir.
Au revoir.
On continue avec les invités de l'émission. Et puis, on va. C'est le dernier qui était le premier. Alors, ça, c'est une vieille parabole biblique, mais voilà, vous m'en excuserez. Antoine Boussin, bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Boussin. Vous avez été le premier sur ces entretiens littéraires.
Bah oui, on a créé ça avec une autre équipe départementale, avec un autre responsable culturel, avec un autre conseiller.
Oui. Les temps changent.
L'idée était la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire d'installer la littérature dans le programme de la collégiale.
Mmh. Alors vous, quand on regarde la liste des invités passés, on se dit que votre carnet d'adresses, c'est le who's who de la littérature française.
Vous avez raison, je me disais ça aussi. Je n'ai pas compté, mais je crois qu'il n'y en a pas loin de 100.
Mmh.
Et ça va à la fois dans la diversité. J'ai reçu évidemment majoritairement des autrices et des auteurs de romans, de fiction. Mmh. Mais il y a eu des philosophes, il y a eu des historiens, il y a eu des essayistes. Il y a eu peu d'hommes politiques, mais ils étaient déjà retirés des affaires politiques. Je pense à Hubert Védrine.
Ouais, mais on sait, en fait, ces gens, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils sont et quand est-ce qu'ils ne sont pas, en réalité.
Ah ben, Hubert Védrine, on sait qu'il ne fait plus de politique. Mais donc, de toute façon, je ne l'aurais pas invité s'il avait été encore avec des responsabilités. Voilà, mais quand vous regardez entre Laure Adler et Hubert Védrine, ben, y a des gens formidables.
Oui, bah c'est, y a... oui. Bah oui, on retrouve... régulièrement dans votre programmation, c'est pour ça que moi, je disais tout à l'heure... semi en plaisantant, mais sérieusement, c'est que je pouvais pas accéder puisqu'il y avait plus de place. Naïvement, je me croyais
c'était
pas.
C'était assez difficile dès le départ, si vous voulez. La première année, on a fait ça sur un mois avec 4 samedis.
Oui.
Bon, le hasard de la programmation, c'est qu'on avait 4 femmes, mais 3 étaient très connues, une était beaucoup moins connue. C'était Zoé Valdès. Eh bien, elle a rempli la collégiale quand même la première année. Et les années qui ont suivi, on sentait très bien que c'était engagé. C'est-à-dire que les gens attendaient l'événement comme ils l'ont attendu cette année.
Et donc, en fait, vous vous accrochez beaucoup aux rentrées littéraires. Enfin, votre programmation se fait beaucoup autour des rentrées littéraires.
C'est plus simple, si vous voulez, parce que ça, c'est généralement programmé en février ou en mars. Il faut que les auteurs, il faut que le programme soit bouclé au plus tard début décembre. Donc, je suis au courant des programmes de parution de janvier, février. Là, on accueille quand même, dans ce programme-là, deux auteurs qui ont publié en janvier. Delphine de Vigan et Thomas Schlesser.
Oui, Thomas Schlesser. Donc, le petit jeune de la programmation. Il n'a pas beaucoup de livres à son actif.
Je ne vois pas ce que vous voulez dire.
Bah, il a 2 livres à son actif, non?
Ah oui, au niveau des parutions. Il a déjà écrit.
Oui.
Mais le véritable tsunami, si on peut dire littéraire et commercial, c'est son livre précédent sur les yeux de Mona.
Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs, c'est curieux parce que les gens... Bon, ça s'est vendu à 500 000 exemplaires. Il y a une trentaine de traductions. Le livre était absolument pas connu. C'est-à-dire que les libraires ont fait une toute petite mise en place au départ. Les gens connaissent le titre beaucoup plus que le nom de l'auteur. J'ai fait ce test autour de moi. Ah oui, Les yeux de Mona, bien sûr. Mais Thomas Schlesser. Ah oui, oui, mon voix. Bah si, c'est lui. Et là, je suis d'autant plus content que quand je l'ai invité, je n'avais pas lu le livre. Il fallait caler ça au mois de décembre. Et je l'ai lu, là, en début février. Et c'est un livre exceptionnel.
Alors,
qui est complètement différent. C'est une sorte de... Un homme... qui est en Provence, la Provence où il y a des incendies, où il y a des problèmes avec la nature, elle change. Le voisin de cet homme-là, qui s'appelle Louis, est une femme, professeure de lettres, qui va l'initier à la poésie. Mais d'une manière très, très originale, très ludique, très simple. Et cet homme, il y a 2 dimensions dans le livre. La nature, parce qu'il est très sensible, il a du mal à dire les choses, c'est un taiseux. Mais il est ému par un chaton qui rentre dans sa paume de main. Bon. Et puis, on va développer comme ça toute une histoire de la poésie française et anglaise aussi. C'est un peu l'initiation, le revers sur la poésie des yeux de Mona qui parlait évidemment de la peinture.
Alors, on peut citer les noms. Sœur Chalandon, Delphine de Vigan, Franck Bouys, Antoine Sénanque, Alice de Saint-André, Olivier Adam.
Voilà. Alors ça, faut s'arrêter là-dessus parce que si vous voulez, chaque année, moi j'essaye de donner un petit focus sur des écrivains moins connus.
Oui.
C'est évident, ils le savent très bien, et les maisons d'édition aussi. Je ne pouvais pas faire un rendez-vous simplement avec Antoine Sénanque. Il n'y aurait pas eu autant de monde que ceux qu'on, je pense, réservés pour celui-là.
D'accord.
Mais il y a un entraînement dans ces entretiens littéraires. Moi, ma véritable joie l'an dernier... C'est pas des gens qui me disent « j'ai pas pu rentrer parce que c'était complet et tout ». C'est de savoir que le dimanche à 17h, Barbara Cassin a réuni 350 auditeurs.
C'est Barbara Cassin ?
Ben oui, mais enfin Barbara Cassin, vous savez, à travers les vases grecs, Ulysse à travers les vases grecs, c'est quand même pas un sujet très, très, très immédiat. Oui. Elle a un tel talent que, évidemment, c'était limpide.
C'est pour ça que je dis que c'est Barbara Gassin.
Oui, c'est ça. Oui, mais c'est facile à dire après. Hein.
Ah, moi, je l'aurais dit avant, de toute façon.
Ah ben, tant mieux. On l'aurait dit ensemble.
Et puis, vous terminez, ça se termine avec Natacha Appana, donc oui. Le grand livre de la rentrée 2025.
Qui a failli avoir le Goncourt.
Qui a failli, bah
c'est,
oui. Mais
c'est un livre étonnant. Le prix Fémina avait déjà donné son prix avant le Goncourt.
Bah oui, voilà. C'est comme c'est en alternance.
Mais
d'une année sur l'autre.
Très bien, elle a eu beaucoup de succès. Oui. Il faut quand même dire un mot aussi, parce que je l'ai invité pendant des années, mais ce n'était pas possible qu'il accepte, c'est Michel Pastoureau.
Ah,
Michel
bah
Pastoureau,
oui.
Qui est un historien d'art que vous devez connaître.
Bah oui, quand il aura fini l'arc-en-ciel, je ne sais pas ce qu'il va faire.
Bah, on n'en est pas loin quand même. Hein. On n'en est pas loin. Vous pensez par rapport à l'arc-en-ciel qu'il y a sur le tramway d'Angers ?
Je pense non. Je pense aux couleurs, à sa déclinaison des couleurs. Enfin, à son travail sur la déclinaison des couleurs.
Il arrive presque au bout, vous savez. Oui. Là, dernier album, c'était le rose.
Oui.
Ne me demandez pas mon avis, mais c'est vraiment pas ma couleur préférée. Je préfère quand il me parle du bleu, du vert, du jaune, du rouge ou du noir ou du blanc.
Ouais.
Là, voilà. Non, ce qui est intéressant,
mais c'est Michel
Pastoureau.
Là, vous faites fort quand même.
Fort, j'espère. Mais oui. Ce qui est intéressant, c'est l'historien des couleurs, mais c'est aussi l'historien de l'héraldique.
Mm-hmm.
Et dernière dimension, c'est l'historien du bestiaire médiéval. Et là, c'est passionnant. Parce qu'il avait écrit sur le loup, sur le cochon. Yann, vous savez que vous êtes dans une commune où il y a des loups.
Oui.
À côté de chez vous. Oui. Bon, mais alors
ciel,
là...
on ne m'a pas prévenu.
Est-ce qu'il y a des ânes? Parce que c'est le titre de son nouveau livre, L'âne. Mmh. Et c'est jubilatoire. Là, il s'est beaucoup amusé. Mmh.
Donc, les rencontres dans le format que du week-end, donc du deuxième week-end, c'est...
même formule qu'avant.
Voilà, c'est ça.
Une heure et quart, une heure et demie d'entretien.
Que vous conduisez.
Une dédicace ensuite, oui. Organisée par les libraires.
Oui.
Là, il y a trois libraires cette année.
Mm-hmm.
Il y a une nouvelle librairie que je vous conseille d'aller visiter. Peut-être que vous la connaissez déjà.
Là, vous êtes en train de faire affront. Là,
j'anime
une émission qui s'appelle Entre les pages, qui parle du monde des livres en Anjou. Si je ne connaissais pas la Cohue, je serais quand
très
même...
Bien. Non, mais je suis content qu'elle vienne parce que ça va lui donner une visibilité. Si
bah oui, bah oui.
Donc, il y a la Cohue, il y a ex-librairie Richer, qui s'appelle Rougier Play aujourd'hui.
Oui.
Et puis, il y a la librairie Les Riaux, place de la Visitation.
Les infatigables Les Riaux, parce qu'ils m'épuisent, moi. Ils m'épuisent, je ne vous cache pas, ils n'arrêtent pas.
Voilà.
Je vous remercie, Antoine Boussin. Je me retourne vers Isabelle Legge. Alors, ces rencontres, on vient d'en parler, on a fait un peu le tour du propriétaire, on a vu à peu près la richesse du programme. Quelles informations pratiques il faut encore donner ?
Alors déjà, il reste des places.
Oui.
Il y a toujours des places, donc il suffit de se connecter sur le site internet de la collégiale, collégiale-saint-martin.fr. Et on a accès à la billetterie en ligne si on ne souhaite pas se déplacer à la billetterie in situ. Voilà.
Alors, et c'est très cher.
C'est très très cher, bien sûr.
C'est le rappel prix.
Il y a, pour les abonnés de la collégiale qui possèdent la carte privilège, c'est comme l'année dernière, gratuit. Sur tous les entretiens, que ce soit les graines de lecteur, les séries noires ou les séries animées par Antoine Boussin.
Mmh.
Et puis sinon, pour ceux qui ne souhaiteraient pas suivre plusieurs entretiens, etc., il y a des tarifs uniques, un tarif de 5 euros par entretien ou par spectacle en fonction des week-ends que l'on retient. Voilà.
5 euros, moins cher qu'une place de cinéma, gratos aussi pour les 20 ans. Hein.
Évidemment, et on reste
attention,
gratuit,
n'oublie pas. Hein.
Gratuit aussi pour les graines de lecteur, également pour jusqu'à 16 ans. Voilà.
Jusqu'à 16 ans.
Voilà.
Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Rappelez les dates, c'est important, parce que ça, c'est bientôt. Là.
Donc c'est ce week-end, vendredi 27, samedi 28 février et dimanche 1er mars. Je précise d'ailleurs que pour le premier week-end, il y a également aussi des séances de dédicace avec les auteurs, avec les librairies de la Luciole, du Repère des Héros et le dimanche avec Richer également.
Oui.
Et puis le second week-end, donc pour les entretiens animés par Antoine, qui se tiennent les 6, 7 et 8 mars 2026.
Eh bien voilà, on a tout dit, il suffit d'aller à la fois sur le site de la Collégiale Saint-Martin, à la fois sur le site de Radio G, toutes les informations y seront, et puis l'émission se termine. et j'ai réussi à la conduire, ce qui m'impressionne moi-même. J'en sors épuisé. Eh bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire au cours des deux week-ends prochains. Merci à vous toutes et tous d'être venus jusque dans le studio de Radio G. Je souhaite bien évidemment plein succès aux entretiens de la collégiale. Il faut que je rende le micro maintenant. Hein. C'est voilà, il n'y a qu'une heure. Hein. J'avais dit 59 minutes, 59 secondes. Au cours de l'émission, vous avez entendu Da Ponce qui a chanté Adieu Abeille et Zentone qui a interprété Riverside. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages, sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 11 mars à 17h, une émission qui sera consacrée à la littérature très jeune public avec deux illustratrices, Margot Otatz et Myriam Nyon. Et si vous savez comme je me réjouis de les recevoir, dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI. Et puis bien évidemment, votre magazine Topette animé par Pierre Benoît. Je vous souhaite une excellente soirée et maintenant...
In 500 meters, go straight and then go straight.
Générique.